Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'antenne de Lilith, Martine et les autres. Nous sommes le 26 février, il fait beau, il fait froid, les bourgeois sont au ski et nous, nous sommes là pour vous, chères auditrices, chers auditeurs. Alors, qui y a-t-il en studio aujourd'hui ?
Qui y a-t-il ?
Le collectif lesbien.
Bonjour, bienvenue.
Bienvenue.
Bonjour. Et du coup, on va parler aujourd'hui, on va faire une présentation du collectif lesbien avec nos deux invités. Ensuite, on parlera du film documentaire Les Invisibles. Et parce que on a choisi de faire ça par rapport à la mort de Thérèse Claire, une féministe assez célèbre qui a monté notamment les Baba Yaga. On passera un extrait de l'émission qu'on avait fait avec elle il y a fort longtemps, en 2011. Et puis on continuera avec l'actualité en tout genre, sur tous les sujets, Calais, Cologne, le remaniement du secrétariat des droits des femmes, des appels à dons, voilà, plein de surprises pour le reste de cette émission. Bah, merci d'être venu avec nous dans notre émission.
Merci de nous avoir invités.
Et peut-être pour commencer, notre première question pour vous, est-ce que vous pouvez essayer de définir ce collectif lesbien lyonnais ? Nous dire un peu son essence, ses objectifs, par exemple.
Oui, alors, déjà, on est venus à deux, Emeline et Marie. Et du coup, le collectif lesbien, ça regroupe, 10 à une quinzaine de militantes actives. Et puis après, d'autres militantes. Et on milite pour augmenter la visibilité des lesbiennes et des bisexuels dans la société, et des FSF, des femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes, et qu'elles soient déclarées hommes ou femmes à la naissance. Aussi, on met en œuvre des actions et des moyens de prévention de réduction des risques en matière de santé lesbienne. On lutte pour le droit des femmes, bien sûr, et des lesbiennes, contre la lesbophobie, contre la biphobie, contre la transphobie, et toutes les formes de domination qu'il peut y avoir. Et on organise des permes et des réunions au centre LGBTI de Lyon, donc 19 rue des Capucins, dans le premier. Donc on a deux réunions par mois qui sont ouvertes à toutes. Toutes celles qui ont envie de participer à la vie du collectif. Donc on se retrouve les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois à 19h30. Et aussi, on a des permanences, conviviales et intergénérationnelles. Nos permanences sont le vendredi à 19h30, aussi au centre LGBTI.
Le troisième vendredi du mois, du coup.
Oui, et c'est des permanences non mixtes. Donc, meuf, gwyn, trans, voilà.
Est-ce que vous avez des projets passé dont vous pouvez peut-être nous parler ?
Oui, alors déjà il faut savoir que au tout début du collectif, il y a une brochure qui s'appelle Tomber la culotte, que j'ai là, et qui du coup...
Oui, parce que le collectif ça fait un bout de temps qu'il existe.
Un bout de temps,
pas
oui
tant que ça,
et
en
non.
Fait.
Il y a eu un rassemblement du coup par rapport à Tomber la culotte qui date de 2010 et l'association est née en 2011. Ça reste récent.
Parce que je crois que en 2010-2011, le collectif lesbien était déjà venu à Lilith.
D'accord.
Mais ça fait déjà un bout de temps, on peut dire quand même.
Oui, oui.
Ça peut qu'être appelé à durer, mais.
Oui, c'est ça. Donc le comeback. Et du coup, on est très active sur la santé sexuelle des femmes lesbiennes, FSF. Il y a eu beaucoup de tables qui ont été faites lors d'événements, de soirées. on continue, on n'en a pas encore fait cette année, mais on reste active sur le sujet.
Et tu veux un peu plus nous expliquer ce que c'est tomber la culotte alors?
Du coup, tomber la culotte, c'est à l'origine l'INPS, si je ne me trompe pas, qui a demandé, qui a fait une demande en fait à plusieurs associations qui avaient envie de faire une brochure, qui a donné un financement en fait. Et du coup, bah, y avait plusieurs associations LGBT qui ont répondu. Et parmi ces associations, bon, bah, enfin, y avait des lesbiennes, tout ça. Il y avait la LGP et Lesbian and Gay Pride. Et dans la LGP, il n'y avait qu'une nana. Et du coup, elle s'est dit, mais mince, quoi.
Où sont les
où
autres
sont-elles, voilà. Et du coup, elle a fait un appel et il y a eu 20 lesbiennes qui ont dit oui, ça nous parle, on veut participer à cette brochure. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né, du coup, le collectif lesbien. Et c'est comme ça qu'est né aussi cette brochure qui rassemble, en fait, plein d'associations qui ont participé à cette brochure. Du coup, bah, si je cite, il y a Solidarité Sida, il y a Les Cigales, Centre LGBT de Dijon-Bourgogne, la commission lesbophobie de SOS Homophobie, le groupe LGBT des universités de Paris, l'association des médecins gays, le MAG, Mouvement d'affirmation des jeunes LGBT, l'association des médecins gays, les cofondatrices du groupe LOC, Lesbian of Color, il y a Isabelle Saintis, une sexologue, le planning familial, le mouvement d'affirmation des jeunes LGBT, SIDA Info Service, Cœur, c'est Info SIDA. Donc voilà, il y a pas mal eu de...
Et elle parle de quoi, du coup, cette brochure?
Eh ben, elle parle de la santé sexuelle des lesbiennes.
Mais donc, oui, c'est des témoignages, c'est comment ça se présente en fait?
Oui, il y a des témoignages, il y a des photos, mais on suit aussi un peu rock'n'roll.
La première page est rigolote, là, on voit des jambes de femmes dessinées, hein, des jambes de femmes écartées, c'est comme
en fait,
le flipper, des petits points.
Ouais.
Je crois que le projet, c'était un peu comme les brochures autour de la réduction des risques. Bah, c'est comme c'était de le tourner envers la réduction des risques de la sexualité des femmes et de la santé des femmes, notamment qu'il y avait une sexualité avec d'autres femmes, parce qu'elle est vachement absente dans la recherche, dans la prévention.
Oui.
Et là, c'était un des premiers outils qu'il y avait pour dire, quand t'es une femme qui a une sexualité avec une femme, d'aller chez le gynéco, ça a du sens. Et la gynéco doit te recevoir en tant que telle, ou dans les points sida. Il y a vraiment une portée politique.
Pas que le sida, du coup, toutes les IST, et toute enfin, toutes les maladies sexuellement transmissibles, en fait.
Et puis, c'est aussi une brochure qui parle d'acceptation. Ça parle pas que de santé sexuelle, il y a plein d'autres choses autour, sur l'acceptation du corps de la femme, des femmes, des lesbiennes dans la société, tout ça. Ça tourne pas que autour de la santé sexuelle, quoi. Il y a plein de choses dedans.
C'est intéressant parce que ça fait des points d'ancrage d'un sujet qui, après, se diffuse.
Voilà, ça montre à quoi c'est relié aussi.
Et autrement, dans nos projets passés, enfin assez récents quand même, et importants, on a travaillé en fait sur les soldats et l'histoire des lesbiennes dans la Seconde Guerre mondiale, avec Isabelle Saintis notamment, où il y a eu une journée d'information en avril à Lyon, du coup organisée par le collectif lesbien lyonnais. Et puis, du coup, aussi, l'année dernière, pour la quinzaine des fiertés, on avait, du coup, on a participé à la marche des fiertés. Et il y avait une projection de deux films qui étaient en lien avec, qui étaient sur les footballeuses, les Dégommeuses, donc le groupe, le club de Paris de football lesbien. Et en fait, elles ont réalisé aussi un film sur une équipe de foot en Afrique du Sud. Parce que du coup, il y a un club qui s'est appelé le nom d'une joueuse, Tokozani, et qui était dédié en fait à une footballeuse qui est morte en fait en Afrique du Sud, par rapport justement au fait qu'elle soit lesbienne. Donc voilà, ça c'était important. On a participé à la marche de nuit aussi l'année dernière, en avril 2015.
Ouais. Lui aussi.
Peut-être pour le 8 mars, on peut espérer qu'il y en ait une.
Je crois que c'est mal parti.
Ah, moi je suis bien partie.
Il y a une manif pour le 8 mars, ok.
Ouais. Faut se mettre en réseau, mais ça peut marcher.
Bon, on fait un appel pour se mettre en réseau pour faire une manif pour le 8 mars à Lyon.
Et du coup, récemment, on a participé au Pink Bloc pour la manif du 6 février contre l'état d'urgence. Donc, du coup, on avait une banderole sorcière contre la politique sécuritaire.
Qu'on a porté malgré le vent, les bourrasques.
On est sorcière ou on l'est pas en même temps.
Bah ouais. Et il y a aussi notre projet qu'on prépare en ce moment. C'est un projet sur l'histoire du militantisme lesbien, donc pour conserver la mémoire par rapport autant à des milieux, au milieu festif qu'au milieu militant. Donc voilà, et ça va surtout se baser sur des témoignages, des interviews. Donc on voulait demander s'il y a des auditrices qui sont des femmes lesbiennes, quand même peut-être d'un certain âge, parce que bon voilà.
Oui, on veut remonter dans l'histoire en fait. Donc,
voilà, donc si vous avez ça nous fait un super lien avec le film Les Invisibles, voilà. Nickel.
Donc voilà, vous pouvez venir soit nous rencontrer, donc c'est les 2e et 4e jeudi comme on a dit, soit venir à une de nos permes du vendredi, ou alors nous contacter par mail, donc y aura, nos contacts seront énoncés à la fin, donc n'hésitez pas à venir témoigner, on est gentils, on vous accueille. Et ça peut être super intéressant.
Et c'est à quelle heure la permanence ?
19h30, les 3e vendredis du mois.
D'accord. Et pourquoi vous avez deux formes de permanence ?
En fait, c'est pas deux permanences. En fait, les jeudis, c'est des réunions.
De travail.
Donc voilà, là, il y a un ordre du jour, on discute vraiment de nos projets, de nos actions. Et les vendredis, c'est convivial, donc c'est un peu apéro, il y a le bar qui est ouvert, on discute, on mange, c'est complètement non officiel, quoi. C'est à la cool. Quoi.
Ouais, un espace de rencontre.
Voilà, c'est convivial. Oui.
Même celles qui ne veulent pas faire de militantisme, elles peuvent venir juste discuter, quoi. C'est pas
c'est ouvert.
Esprit, voilà.
Oui, il y en a un, c'est un espace d'organisation.
Voilà.
Et puis, vous êtes sur des principes d'autogestion, de choses.
Oui, c'est ça. Ouais.
Voilà, ouais. Du coup, il y a du travail à faire pour que ça marche.
Oui.
Ouais.
Puis juste dire qu'en fait, dans nos réunions, enfin, justement, on a deux réunions par mois parce qu'on en prend une où on essaie de réfléchir sur des thèmes. Par exemple, dernièrement, la PMA, procréation médicalement assistée, aussi sur la transsexualité. Et après, bah, dans nos permanences, on a présenté justement, sous forme de PowerPoint ou de diaporama, le travail qu'on avait élaboré là-dessus et du coup, bah, où on en est actuellement dans la PMA. Et aussi dans la transsexualité, et je parle au niveau des lois, tout ça. Et bah, c'est intéressant, en fait. Parce que
ça amène une discussion, ça fait réfléchir un peu les gens, c'est cool, quoi. C'est pour,
Vous êtes vachement moderne, vous faites des PowerPoints.
Waouh. Oui, on a un Twitter aussi. Hein, et...
Ok, on mettra toutes vos références sur le blog.
On va s'écouter un morceau que vous avez choisi...
Oui, donc Marie Lambert, Body Love.
I know girls who are trying to fit into the social norm like squeezing in last year's prom dress. I know girls who are low-rise, MAC eyeshadow, and binge drinking. I know girls that wonder if they're disaster and sexy enough to fit in. I know girls who are fleeing bombs from the mosques of their skin. Playing Russian roulette with death, it's never easy to accept that our bodies are fallible and flawed. But when do we draw the line? When the knife hits the skin, isn't it the same thing as purging because we're so obsessed with death? Some women just have more guts than others. The funny thing is women like us don't shoot. We swallow pills, still wanting to be beautiful at the morgue, still proceeding to put on makeup, still hoping that the mortician finds us fuckable and attractive. We might as well be buried with our shoes and handbags and scarves. Girls, we flirt with death every time we etch a new tally mark into our skin. I know how to split my wrist to reveal a battlefield too, but the time has come for us to reclaim our bodies. Our bodies deserve more than to be war-torn and collateral, offering this fuckdom as a pathetic means to say, I only know how to exist when I am wanted. Girls like us are hardly ever wanted, you know? We're used up, and we're sad, and drunk, and perpetually waiting by the phone for someone to pick up and tell us that we did good. We did good.
I know I am because I said I am. I know I am because I said I am. I know I am because
On est toujours sur Lilith, Martine et les autres. Et oui, c'est vendredi 26 février, il fait beau dehors et nous on est dans un studio de radio.
Mais on s'amuse quand même.
Et on s'amuse bien, on fait pas du ski mais on fait de la radio.
Et il y a que des femmes.
Et on a écouté un morceau qui s'appelle Body Love. Et pour celles qui comprennent pas l'anglais comme moi, vous pouvez nous expliquer vite fait ce qui a été dit.
Ben c'est la, du coup elle parle de l'amour du corps. Du corps de la femme, quoi, de son corps, de notre corps en tant que femme. Et ouais, enfin, du coup, elle met en avant ça en fait. Elle que même, voilà, malgré les filles, si elles boivent, si elles ont eu des abus ou si, et ben, d'aimer son propre corps, de le regarder et de l'aimer.
Ah, c'est beau. Wow. Je suis contente d'avoir compris ce que ça voulait dire. Et on enchaîne avec le film Les Invisibles. Bah, pourquoi oui. On voulait parler de ce film?
Bah, déjà, ça fait bien un petit lien entre les activités du collectif lesbien, n'est-ce pas, qui se penche sur l'histoire du militantisme et tout. Donc, Les Invisibles, c'est un film documentaire qui est sorti sur les écrans en 2012, réalisé par Sébastien Lifshitz. Il y a un nom difficile à prononcer, mais son film est vachement bien.
Et, Il ne faut pas le traduire non plus.
Et donc, en fait, c'est un film qui parle, en fait, beaucoup des vieux homosexuels. Donc, il y a des PD et des lesbiennes dans le film. Et il raconte un peu comment ça se passait pour eux avant, comment ça se passe maintenant. Et c'est vrai que moi, le film, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir vu ici... en studio, et c'est vrai qu'il est très émouvant, et c'est vrai que ça montre bien que, voilà, quoi, l'homosexualité, enfin, les réacs d'aujourd'hui, ils veulent nous faire croire un petit peu que c'est un effet de mode, que c'est un truc, voilà, qui sort de nulle part. Et bon, là, on voit vraiment à quel point la vie, elle a quand même bien changé quand on est homo, heureusement. Il y a du chemin encore à faire, mais c'est vrai que quand on entend les histoires des gens qui vivaient carrément vraiment cachés, c'est voilà. Enfin, à la fois, moi, ça m'a fait chier de voir à quel point ils ont dû vivre cachés, et à la fois, comme ils ont quand même vécu leur vie des gens assez forts et tout.
En assumant.
Ouais.
Et ouais, puis, il y a des témoignages assez contradictoires sur ce que tu dis, que je me rappelle une femme qui explique quand elle était jeune, une de ses copines lui propose d'aller manger chez sa mère. Et elle, parce que sa mère, elle n'a pas du tout de problème avec son lesbianisme. Et c'est dans les années 60-70, c'est quand même des témoignages assez anciens. Et elle s'énerve parce qu'en fait, elle dit elle n'accepte pas que sa mère puisse accepter. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas des situations, on pourrait croire, dans les années 60-70, tout le monde refuse l'homosexualité, c'est tabou pour tout le monde, dans toutes les familles. Et en fait, ça montre aussi plein de subtilités.
C'est plus complexe, quoi.
Ouais. Et ce qu'on disait aussi en dehors du studio, c'est que ça montre, pour vous, le collectif lesbien, vous soutenez ce film, parce qu'aussi, il montre plein de réalités de vie, de réalités à la campagne, d'hommes, de femmes, certaines qui habitaient en ville, à la campagne. Alors moi, ça aussi, je trouve ça assez intéressant. On a le présumé aussi qu'il y a des espaces géographiques qui sont plus homophobes que d'autres. Des fois, en ville, ce sera des quartiers, aussi la campagne. Mmh. Et là, ça casse aussi plein de stigmatisation.
Oui, moi, alors là, c'est plus sur le plan personnel, mais j'ai trouvé que c'était un très beau film, très bien réalisé, dans le sens aussi de l'image, où il y a beaucoup de... Il y a vraiment cette intimité qui est gardée. Moi, j'ai l'image de deux personnes, hommes, homosexuels, et où on voit, même dans leur intimité, les quiproquos, les petites...
la complicité.
Oui, et c'est beau, quoi. Enfin, je trouve que là-dessus, c'est beau d'avoir gardé ça dans le film.
avec le pigeon là, je sais pas, il dit ouais vas-y retourne-toi, puis l'autre il est trop vieux, il a du mal à retourner.
C'est ça.
Le pigeon il veut que tu le regardes. Et l'autre il a oh. Ah ça y est, il est content. Regarde, tu l'as regardé.
Il est parti.
C'est trop mignon.
Ouais, il y avait ce vieux couple, ils étaient assez mignons, ils racontaient leur rencontre aussi, ou comme quoi il y en avait un, il était tellement timide qu'il est allé le rencontrer à la gare et il se cachait derrière une colonne de peur d'être aperçu et tout. Et ça montre bien ouais, qu'au final c'est des couples comme les autres, quoi. Ils sont timides, ils ont de la complicité et c'est pas mal de le montrer ça aussi.
Et dans ce reportage donc, il y a cette fameuse Thérèse Claire dont il va y entrer un peu question aujourd'hui, parce qu'en fait, je l'avais interviewée donc en 2011, alors que le projet de la maison des Baba Yaga à Montreuil était en train de se monter et que la maison des Baba Yaga était en train d'être construite. Et donc voilà, c'était au mois de novembre, et donc je l'ai interviewée, j'avais fait un montage qu'on va écouter maintenant.
Et c'est un peu un hommage à elle, puisqu'elle est décédée là, il y a 10 jours.
Et même, il y a un mot qui a été inventé là-dessus, un fémage.
Un fémage.
Ah, fémage.
Mmh. Oui, le hommage.
À toutes ces femmes qui ont fait des choses et qui sont invisibles. Mais autant pour toi, c'est normal. C'est...
un fémage. Et donc voilà, Thérèse Claire. Et ben on entend le bruit des travaux de la maison des Baba Yaga dans le montage. Alors c'est un peu désagréable, mais voilà, c'est l'ambiance. Et
c'était les débuts de montage de Lucie.
Oui, puis en plus, alors quand même, donc quand je l'ai interviewée, elle avait quand même déjà 84 ans. Et c'est vrai que donc, en plus d'avoir ouvert la maison des Baba Yaga, elle a aussi été à l'initiative de l'ouverture de la maison des femmes à Montreuil. Et donc, elle avait 40 ans, par exemple, pendant le MLF. Et elle avait déjà 4 enfants à l'époque. Donc, c'est vrai que moi, j'étais assez impressionnée de l'interviewer. Et en fait, elle a parlé toute l'interview avec sa main devant la bouche, comme ça. Et en fait, on l'entend pas trop.
Et t'as pas osé lui...
Et j'osais pas lui dire parce que j'étais un petit peu impressionnée.
Débutante.
Un peu débutante, ouais. Voilà, mais c'était quand même sympa. Mais elle, pour l'histoire, on a fini par s'engueuler un peu parce que bon, décalage de génération.
Vous allez tout savoir.
Oblige. Bon, on s'était un peu engueulé parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes visions, tu vois, sur de la religion, tu es hyper laïcarde, tout ça, enfin des trucs comme ça. Et du coup, elle m'avait dit que j'étais une sale petite gauchiste. Et bon,
c'est un fémage dans tous les sens.
Exactement.
Sans tabou.
Voilà, mais ouais, c'est vrai que c'est bon, voilà, on l'entendra dans le reportage. C'est quelqu'un d'assez charismatique, enthousiaste et tout. Voilà. Et bah maintenant.
On l'écoute.
Yes.
Et c'est Lilith, Martine et les autres que vous écoutez là.
Thérèse Claire.
Fémage.
Fémage spécial.
D'Adam, qui a osé lui monter dessus et qui a été foutu dehors. Elle est nommée une fois dans la Bible, chez Élie, je crois, ou Jérémie. Elle est nommée une seule fois. Et on pense que c'était une vieille déesse mésopotamienne du temps de Gilgamesh. Et en tout cas, c'était une mauvaise femme. Mmh. Elle faisait rien comme il fallait.
Et les Baba Yaga, c'est qui en fait?
Les Baba Yaga, c'est des mauvaises femmes, pareil, qui font rien comme il faut. Les Baba Yaga, la Baba Yaga, c'est une vieille grand-mère russe, la Baba, la Babouchka, qui raconte des histoires, la Yaga, la saga. Et Et comme elle habite une maison au bout du village, une maison dont les fondations sont en pâte de poule, c'est deux pâtes de poule, les murs en pain d'épices, non, en pâte d'amande et le toit en pain d'épices, les gamins viennent se faire raconter des histoires, mais comme ils lui mangent sa maison, à la fin elle croque tous les marmots, c'est une vieille garce, ce qui n'est pas fait pour nous déplaire. Mais en même temps, c'est une passeuse, c'est une femme qui aide celles qui veulent bien s'aider, qui veulent bien rester ou devenir autonomes. Et ça aussi, c'est un rôle qui me plaît. C'est un peu aussi le rôle des Baba Yaga.
Et du coup, les Baba Yaga, le projet, c'est...
Alors le projet, on a, après 10 ans, 11 ans de lutte, de bataille, de chamaille, de rapport de force, nous avons fini par poser la première pierre le 15 octobre. Et on en est déjà au troisième étage et on a vu l'architecte pas plus tard qu'hier qui nous a dit qu'on y rentrerait fin juillet. J'y crois à moitié, mais enfin, peut-être.
C'est bien parti.
C'est bien parti. Mais je trouve que le premier œuvre, s'il n'y a pas trop de gelée, là, cet hiver sera terminé en février. Et le second œuvre, ils disent que ça va être terminé en juillet. Ça me semble plus difficile.
Donc à partir du mois de juillet, vous allez...
Normalement, fin juillet, on doit emménager dans nos nouveaux locaux. Je commence à faire l'inventaire de mes meubles. Celui-là, je l'emmène, celui-là, je le donne, celui-là, non, celui-là. Parce que j'ai un 55 mètres carrés, j'en ménage dans un 33 mètres carrés. C'est quand même pas grand.
Ouais.
Voilà.
Et donc la vie, elle va se passer comment? Vous allez être combien?
Alors on est 20, c'est prévu pour 20 personnes. Alors il y a 21 logements pour les Baba Yaga, mais on garde le plus petit de 20 mètres carrés. D'abord parce qu'on va faire des échanges avec l'Europe, donc de temps en temps il faudra coucher quelqu'un. Et puis si par hasard on devient un petit peu plus dépendante, qu'on puisse avoir une aide-soignante, une infirmière, enfin qui puisse dormir là au moins avec nous. Voilà.
D'accord. Et donc le but, c'est venu comment aussi le projet?
C'est venu parce que j'ai une vieille maman qui a été 5 ans grabataire. Je travaillais encore à l'époque. Elle avait une insuffisance respiratoire très lourde, donc très sévère. Donc il fallait être auprès d'elle quasiment tout le temps. Et je travaillais encore à l'époque. J'avais mes 4 enfants qui étaient en turbulence conjugale et j'avais 14 petits-enfants. Donc, allô Thérèse, je me disais, mon Dieu, où est-ce que tu trouves du temps pour tout ce monde-là? Et ma foi, ça a été pendant 5 ans très très dur. Et quand maman est morte, mon père était décédé, lui, depuis 2-3 ans, j'avoue que je me suis dit, je ne vais pas offrir ça à mes enfants parce que c'est vraiment pas trop dur. Donc, j'ai imaginé un petit projet que j'ai écrit en 95. Et puis, 95, je commençais à monter la maison des femmes que vous voyez ici. Donc, deux très gros projets, c'était trop. Alors, j'avais rangé le programme, mon petit programme dans un tiroir. Et j'ai deux amies, dont une du PSU, parce que dans les temps très anciens, j'ai été au PSU. Et elles m'ont dit, mais tu vas ressortir, parce que nous aussi, on a des vieux parents qui nous mènent une vie pas possible, parce que les chers vieux, on les adore, mais il est évident que c'est en ce moment une tâche très très lourde. Alors je refuse quand j'entends parler des enfants, de la famille ou de l'environnement. C'est les femmes qui soignent, c'est les femmes qui torchent, toujours. Alors, à 98%, donc c'est encore une revendication de femmes auxquelles on ne pense pas. C'est une violence que subissent les femmes parce que c'est encore un gros surcroît de travail et d'argent souvent. Et c'est encore pour les femmes. Alors ça, les jeunes féministes ne le pensent pas beaucoup parce qu'elles ont 20 ans ou 30 ans, mais les vieilles féministes comme moi qui ont connu ce qu'est l'aide aux vieux parents, ça c'est aussi un secteur à défendre. Donc il faut absolument défendre les vieilles femmes parce que très souvent elles ne sont plus en état de se défendre. Comme d'habitude, comme elles ont été opprimées toute leur vie, elles n'osent pas l'ouvrir. Donc elles vous disent en pleurnichant, dans le secret, etc. etc. Alors que tous ces scandales-là devraient être exprimés, devraient être hurlés, parce que ces femmes qui ont eu beaucoup d'enfants n'avaient pas la contraception. Heureuses jeunes femmes qui avaient la contraception, nous n'avions pas la contraception, donc on avait beaucoup d'enfants, on en perdait encore quelques-uns jusqu'à la guerre, il y avait une mortalité infantile de moins en moins. Maintenant, c'est quasiment nul, la mortalité infantile dans les pays développés. Mais vraiment, il faut penser à ce secteur des vieilles parce que c'est très difficile. Ces pauvres femmes, elles ont fait que torcher des gosses, encore torcher. Et puis, elles n'ont pour la plupart pas travaillé parce que comme vous, moi, je n'ai eu que 4 enfants. Mais moi, j'ai combien de mes amis qui avaient 5, 6, 7 gosses parce que avec l'injonction des pouvoirs politiques, du pouvoir médical et du pouvoir religieux, celui-là étant de loin le pire, nous avions beaucoup d'enfants. Et puis le manque de techniques contraceptives, c'est vrai.
Vous êtes né en quelle année, vous ?
En 27.
27,
oui. Oui, j'ai 84 ans. Donc, si vous voulez, je suis une vieille féministe de 68. En 69, hein, le mouvement a commencé en 69-70. Donc, si vous voulez, ça fait 40 ans que je milite, avec tout ce que ça représente d'espoir, de bonheur, mais aussi d'échec, faut bien le dire, parce que le mouvement des femmes commence à repartir un petit peu avec les jeunes femmes, mais il y a eu une période de grand creux entre 90 et 2010. Ah non, surtout pas. Écoutez, pourquoi voulez-vous ? Alors, quoi ? Vous n'aurez pas d'homme ?
Ouais.
Alors aujourd'hui, vous savez, on s'en défarcit souvent pendant 50 ou 60. Alors, on a droit à un petit coin de vie à nous, rien qu'à nous. Alors, il faut bien s'entendre, hein. On n'est quand même pas des horribles. On n'aura pas de couple, si vous voulez. Nos copains viendront nous voir dans la journée autant qu'ils voudront, ils seront les bienvenus. Mais alors en bas de la maison des Baba Yaga, et je pense que c'est la partie la plus importante de la maison des Baba Yaga, nous aurons une université populaire où on va faire plein de choses, et là, toute la ville est invitée, enfin pas toute, j'espère. Mais les hommes, des adolescents, parce que je ne crois pas beaucoup à l'intergénérationnel, mais les jeunes, les adolescents sont les très très bienvenus. Pas trop les enfants parce que ça hurle. Les jeunes ne se rendent pas compte que les vieilles, surtout les plus de 80 ans, on n'a pas les mêmes normes de temps, d'espace, de silence, de manière de vivre. Donc c'est très différent. Et bien entendu, les gens jeunes, d'ailleurs l'intergénération, c'est très intéressant. C'est toujours demandé par la génération plus jeune et souvent par des hommes, ce que j'appelle les inconsolables de la mer. Ils se disent, on va retrouver des vieilles qui vont nous bercer, ça sera bien. Bien non, non, on veut passer mettons 10 dernières années de notre vie tranquille. Voilà.
Et vous avez eu des bâtons dans les roues quand même, un peu là pour votre maison?
Des bâtons dans les roues, c'est peu dire. C'était un projet innovant. Un projet innovant, l'administration n'aime pas. On disait toujours, madame, il est très intéressant votre projet, mais il n'y a pas de case administrative pour le traiter. Deux, nous étions des femmes. Et trois, des vieilles femmes. Donc, nous étions vraiment dans la, comment dire, dans le pire du pire. Mais quoi ? Les vieilles femmes ? Alors j'ai entendu au Conseil Général, je ne l'ai pas entendu mais on me l'a rapporté, en plein Conseil Général, c'est au moins 100 ou 120 personnes autour d'une table. C'est grandiose un Conseil Général, et le vice-président qui s'occupait des personnes âgées de l'époque, qui s'appelait Monsieur Poplin, elle dit quoi ? C'est encore des vieilles gouines. Alors il y a moi, il aurait eu mes nouvelles. Donc il a fallu palabrer. Alors ce qui m'a aidé, je vous remercie publiquement puisque vous en faites partie, c'est les médias. Au début, on avait beau écrire, envoyer des demandes de rendez-vous à toute l'administration, y compris la mairie, le conseil général, régional, etc. etc. Et ma foi, on n'avait aucun rendez-vous, personne à part le maire. Mon maire de l'époque, qui était Jean-Pierre Brard, m'a envoyé un petit mot, ce que j'appelle une lettre anonyme. Madame la Présidente, je vous remercie, votre projet est très intéressant, je veillerai à son accomplissement, croyez madame. Bon, Et puis, ma foi, il y a eu la canicule 2003. Et 2003, ça a été 15 000 morts en France. 15 000 vieux qui sont morts faute de soins, parce que personne ne s'était jamais inquiété du sort des vieux quand il fait 40 degrés. Donc il y a eu 15 000 morts. Alors j'ai envoyé tout de suite à mon maire, Jean-Pierre Bras, ça il le savait, mais j'ai quand même aussi envoyé au journal Le Monde, qui tirait à 500 000 à l'époque, et le journal Le Monde nous a fait un tiers de page dans Le Monde. Donc d'un seul coup, on voit que c'était le grand journal du soir, c'est encore le grand journal du soir. Et d'un seul coup, ça a été des mails, du courrier papier, du téléphone, on n'en pouvait plus. Comme une imbécile que j'étais, au lieu le courrier de le ranger par département pour commencer à structurer, je ne l'ai pas fait. Ça, j'en pleure encore. Mais bon, le groupe s'est quand même élaboré petit à petit. Et du coup, les politiques nous ont invités. D'un seul coup, parce que alors après Le Monde, du coup, on a eu Libé, on a eu Télérama, on a eu tous les grands médias, on a dû avoir deux ou trois télés, 5 minutes au JT. Donc ça a été grandiose. D'un seul coup, on a été connus. Et comme nous étions connus, nous sommes devenus une force politique. Et là, nous avons pu faire des rapports de force. Quand l'autre du Conseil Général a dit quoi, encore des vieilles gouines, on lui a balancé immédiatement des copains journalistes en lui racontant l'histoire. Donc ça fait partie des histoires salaces dont les journaux sont friands.
Faut les aider, les pauvres.
Non, ça on veut pas.
Ouais.
Ça on veut pas. Alors la maison, on veut pas tant qu'on peut. On ne dit pas qu'un beau jour il faudra bien lever le bras pour déjà se lever. Moi à chaque fois c'est une victoire. Me lever d'une chaise, je prends mon élan, 1, 2, 3, ça y est, j'y suis arrivé. Et là c'est encore un miracle. Mais le miracle sera de moins en moins évident en vieillissant. Mais ça, que voulez-vous, moi ce que je demande à tout prix, c'est de garder ma tête. Garder une tête intelligente et travailler pour garder une tête intelligente, parce que ça aussi, ça se travaille. Et dans cette maison du Baba Yaga, nous allons avoir en bas une université populaire. On va avoir deux pièces de 40 mètres carrés, dans lesquelles, d'une part, on va faire l'université du savoir des vieux. Si vous prenez les trois premières lettres, ça fait Uni sa vie. Et dans Uni sa vie, on va chercher à bien vieillir, mieux vieillir, négocier la vieillesse, parce qu'il y a plein de choses maintenant, y compris de la domotique et des techniques informatiques, très chères d'ailleurs, c'est pas pour tout le monde, et nous allons étudier comment négocier, ça se négocie une vieillesse, se lever, savoir sortir de sa mémoire, quoi vous dire, le bien manger, le bien-être, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent et qui s'apprennent en collectif. Je milite depuis la guerre d'Indochine, donc je suis profondément pour le collectif. Le personnel, certes, est intéressant, c'est pas inintéressant l'individu, mais le collectif, lui, arrive à polariser les désirs d'une société et à militer pour l'avènement d'une autre société. Et ça, chez moi, c'est enraciné comme la vérité première de tout individu. Il naît citoyen et il meurt citoyen. Et son devoir, sa tâche, quel que soit son degré d'étude, quelle que soit sa mentalité, c'est de travailler à l'avènement d'un monde meilleur, d'un monde plus juste, où il n'y aurait pas des riches et des pauvres. Ça, en ce moment, nous sommes arrivés au point culminant où il y a si peu de riches qui bouffent toutes les richesses et tellement de pauvres qui sont pauvres et qui payent les conneries des riches. Alors là, j'aime mieux vous dire qu'en ce moment, je suis mauvaise. Je suis mauvaise, alors les babayes. Donc, on va avoir cette partie, comment apprendre à bien vieillir. Parce que vieillir vieux, c'est bien, mais vieillir bien, c'est mieux. Celui-là, j'en suis très fière.
C'est quoi les 5 piliers là?
Alors les 5 piliers, oh oui je manque à tout mes doigts. Les 5 piliers c'est l'autogestion, le féminisme, la citoyenneté, la solidarité et l'écologie. Alors, commençons. L'autogestion, mon Dieu, l'autogestion a été un des grands facteurs d'avancée des utopistes du 19e siècle. L'autogestion est difficile, cela veut dire en gros que chacun peut gérer l'entreprise ou l'association dont il a la garde, et la garde, non seulement la garde, mais aussi veiller à l'évolution de son entreprise. Donc voilà pour l'autogestion. On a resté citoyen, c'est-à-dire que au lieu d'être dans les loisirs, moi j'admire tous les vieux qui vont dans les universités pour apprendre encore qui était Mozart ou Léonard de Vinci, c'est très bien, je suis tout à fait pour. Mais le loisir citoyen, c'est tout à fait autre chose. C'est la vision, c'est finalement, ça naît du désir, la vie citoyenne. J'aimerais tellement que ça soit autrement, tellement qu'il n'y ait plus de pauvres, tellement qu'on puisse avoir du bien-être, tellement qu'on puisse être ensemble, tous ensemble, et faire du lien social tous ensemble. Donc si vous voulez, c'est global, la perspective citoyenne. Non seulement c'est global, mais on sait qu'on n'y arrivera pas comme ça. On sait qu'il y aura des luttes, qu'il faudra s'organiser, pas plus tard que demain, vendredi, c'est demain, après-demain.
Oui.
Le 25 novembre, va y avoir des sit-ins et des manifs dans toute la France pour les violences faites aux femmes. Et ça, c'est un bonheur citoyen. Je suis en train de faire une belle banderole. Une belle banderole. Les Baba Yaga s'indignent. 2. Non à la maltraitance faite aux vieilles femmes. Parce qu'on s'en occupe pas beaucoup de ça. Alors je suis en train de faire une belle banderole. Et je vais aller faire un sit-in avec les copines. Avec ma belle banderole toute fraîche. Là. En ce moment, j'ai un bonheur à faire cette banderole. C'est au moins la 30e banderole que je fais dans ma vie. J'en ai fait pour toutes les causes. Et j'avoue que j'aurais dû les marquer, j'aurais dû les photographier. Je ne l'ai pas fait. Je suis pour une femme d'archive, moi, c'est dommage. Mais j'avoue que j'ai un plaisir à faire cette banderole en me disant c'est peut-être la dernière, mais celle-là, elle est bien.
Et sans transition, Lilith, Martine et les autres, après le témoignage super chouette de Thérèse Claire, avec son bagou, on enchaîne avec le morceau de MAE Border, qui est une sorte de cri d'indignation de MAE contre les passages des frontières qu'essayent de franchir chaque jour des centaines de migrants et de migrantes, hein, faudrait pas oublier non plus, et d'enfants. Et où elle montre en fait dans son clip des personnes qui essayent de franchir des barbelés, qui se retrouvent sur des bateaux. Et voilà, et comme Emmae, on l'aime bien dans cette émission, tout comme les Cumbia Queens et Nina Simone, ben, on avait envie de passer son morceau et c'est un peu l'occasion aussi ben, de montrer en fait, là, Emmae, elle... comment elle esthétise en fait ce fait que tous les jours il y a des gens qui essayent de venir en Europe et elle montre par son esthétique et son style musical le fait que l'Europe c'est une forteresse qui est prête à tuer des gens pour ne pas les laisser rentrer dans les différents pays que forment les frontières, l'espace Schengen. Et rapidement, en fait, comme il y a eu un procès cette semaine à Calais, du coup, Calais, c'est une des zones tampons, on peut dire comme ça, comme Ceuta ou comme d'autres espaces en Italie, où en fait, il y a une frontière qui est réel, mais qu'on nous on oublie en tant qu'Européens avec l'Angleterre pour les migrants, ce qui fait que les migrants ils sont bloqués à Calais, qu'ils peuvent pas y bouger parce qu'ils peuvent pas accéder comme ils veulent en Angleterre parce que du coup l'Angleterre est en dehors de l'espace Schengen malgré qu'elle soit dans l'Union Européenne. Et on entend tout le temps parler parce qu'il y a une énorme jungle, c'est vrai, c'est une situation en crise humanitaire en fait en gros, et il y a régulièrement bah, soit des collectifs comme le collectif No Border contre les frontières qui va s'organiser, créer de la solidarité avec les migrants autour bah, du logement, de la bouffe, et de pour essayer de sortir de l'insalubrité, parce que c'est une situation vraiment en crise, et où des manifestations aussi pour montrer en fait ben welcome refugees, bienvenue en France, et nous on vous veut pas de mal et on va essayer de trouver de la solidarité pour cohabiter ensemble. Du coup il y avait une manifestation le 23 janvier à Calais et dans les qui avait été signée par une quinzaine de collectifs, ça a réuni 2000 personnes selon les médias mainstream, les gros médias là comme le Monde. Et à la fin de la manif, ils ont décidé de casser en fait les frontières les barrières du port pour essayer de montrer que c'est possible de rentrer sur le port et que les migrants ont l'accès aux bateaux et aux ferries comme tout le monde, ce que année après année en fait face à la crise, la préfecture, l'État ont amplifié les barrières, l'impossibilité de passer, ce qui fait qu'on a entendu que les gens sont reportés sur l'Eurotunnel, ont essayé de traverser le pont et sont tués dedans. Et là, c'était une action symbolique ou pas symbolique, en espérant que les gens puissent passer la frontière sous le poids du collectif. Ça n'a pas été possible. Il y a eu 15 arrestations. En gros, il y a eu 3 Italiennes qui ont été enfermées pendant 3 jours en centre de rétention. 4 qui ont été relâchées sans poursuite. Et 6 migrants qui ont été enfermés en prison. Et 2 autres Français qui ont été mis sous contrôle judiciaire. On fait bien la différence parce que c'est les mots en fait, qu'on utilise, c'est pour montrer la différence de traitement. Et il y a eu un procès le vendredi 22 février, hasard du calendrier judiciaire, le même jour il y avait une personne d'extrême droite qui était là pour justement une participation, une manifestation interdite à Calais, et avec il avait des condamnations de fous, détention d'armes, violence, dégradation, provocation à la haine, outrage, manifestation de racisme, et lui il a un contrôle judiciaire et une interdiction de séjour dans le Nord-Pas-de-Calais, et les personnes qui ont cherché à passer les frontières comme tout le temps, les 6 migrants, eux, ils ont eu un mois ferme. Comme ils l'ont fait, ils ont été relâchés le jour d'après. Les 2 Français, ils ont eu une amende de 300 euros parce que ils ont dégradé en sorte de peine un peu symbolique, plus parce que c'est de l'argent. Et pour les migrants, c'est pas la même chose. Il y en a un, il a une OQTF, l'autre, il a rien pour l'instant. Et 4 autres, ils ont été envoyés dans un centre de rétention pour être envoyés en Italie, parce que c'était là où ils ont été fichés par les empreintes. Voilà, on ne sait pas où sont les frontières, les limites. Et on enchaîne assez rapidement là-dessus. C'était pour mon... En fait, de parler du procès, c'était pour montrer la réalité du clip de MIA, que ça a des conséquences sur les vies des gens et que ce n'est pas juste la fiction, ce n'est pas juste des choses qu'on nous rabâche et qui sont loin de nous. En fait, ça a des conséquences pour les gens. Et on continue en fait, sur un peu le traitement médiatique et les images, qu'est-ce que ça joue avec ce que tout le monde a entendu parler, ce que personne n'a pu passer à côté, des agressions sexuelles et viols commis collectivement à Cologne en Allemagne le soir du réveillon. Nous, on prend la parole pas pour minimiser des faits d'agression sexuelle, de violence que des femmes subissent quotidiennement, que ce soit dans la rue, dans leur maison, dans leur travail, et les soirs de fête, comme c'était le cas à Cologne, c'était un 31 décembre, c'était un soir de fête. Et on a trouvé sur un blog qui s'appelle Crêpe Georgette, www.crêpegeorgette.com, une analyse de la question du viol dans un contexte plus large et dans une perspective féministe et antiraciste, si on peut dire. On va vous lire quelques extraits. Les féministes ont toujours étudié, travaillé, analysé et dénoncé les violences sexuelles. C'est grâce à deux victimes de viol et à leur avocate Gisèle Halimi qu'on a pu en 78, lors du procès d'Aix-en-Provence, comprendre les répercussions psychiques possibles du viol sur les victimes. Les féministes ont également permis de faire reconnaître et condamner le viol conjugal qui sera finalement pris en compte légalement en 90. Leurs nombreux travaux et études auront permis de connaître le nombre de viols et de tentatives de viol par an, 75 000 en France, des agressions sexuelles, 13% des femmes allemandes en auraient subi une, le peu de plaintes déposées par les victimes de viol, 10% en France. Elles ont également travaillé sur ce qu'est le viol, ce qu'il constitue au niveau sociologique, alors qu'il est encore souvent vu par l'ensemble de la société comme l'acte isolé d'un fou ou d'un monstre. Ces dernières années ont été analysés le concept de culture du viol et celui de harcèlement dans l'espace public. Les féministes n'ont donc jamais eu besoin d'attendre quiconque pour condamner toutes les agressions sexuelles et tous les viols, quels qu'en soient les auteurs. Elles ont plutôt l'habitude de prêcher dans le désert au milieu de personnes qui ne les croient pas, minimisent les chiffres des violences sexuelles. Les agressions sexuelles et les viols commis le 31 décembre en Allemagne et en Finlande sont donc évidemment condamnables comme toutes les autres violences sexuelles.
Voilà, et le texte continue ainsi. Tout à coup, un certain nombre de gens feignaient de découvrir qu'il y avait des agressions sexuelles et des viols en Europe. Pire, certains semblaient surtout considérer ces agressions sexuelles et ces viols, que ces agressions sexuelles et ces viols étaient de nature différente de ceux commis habituellement. Pourtant, quelle différence entre une agression sexuelle commise par un proche ou un inconnu ? Quelle différence entre un viol commis chez soi et par une connaissance et un viol commis par un étranger ? Quelle différence, pour poser le débat là où l'extrême droite nous oblige à le poser, entre un viol commis par un demandeur d'asile et quelqu'un qui ne l'est pas ? Pour parler de façon plus générale, le simple fait de désigner des gens venant de pays très différents par le même vocable, étranger ou migrant, constitue déjà une erreur sociologique majeure. Et finalement, donc là on coupe un peu le texte, mais en tout cas ça conclut ainsi. En s'arrêtant uniquement sur les victimes de ces derniers jours, l'extrême droite nie la réalité des crimes sexuels, qui est un crime généralement commis par un proche, qu'elle ne prétend donc pas s'intéresser aux victimes, puisqu'elle nie ainsi la réalité de la majorité des victimes de violences sexuelles. Voilà, donc on vous invite à lire l'intégralité du texte donc sur le site, on remettra les références sur notre blog. Et pour continuer dans les actualités qui nous ont un peu touchés, on va dire, moi j'ai vu dans les actualités, bon, tout le monde l'a vu, hein, mais la semaine dernière, il y a eu un remaniement du gouvernement, donc c'est la petite minute politique française. Hein.
Après la minute internationale.
C'est ça, on passe à l'actualité française. Et donc, la secrétaire d'État chargée des droits des femmes est devenue ministre de la famille, de l'enfance et des droits des femmes. Donc en 2016, les droits des femmes sont associés à la famille et à l'enfance. Donc femme, famille, enfance, hein, le raccourci est vite fait. Et si on fait un petit historique, on peut rappeler que la nomination d'une personne en charge du dossier de la parité date de 1974. C'était Françoise Giroud qui avait été nommée au secrétariat d'État à la condition féminine, qui était rattachée au Premier ministre, donc c'était déjà un peu différent. Ensuite, ce ministère ou ce secrétariat a changé de nom, je ne sais pas, au moins 7-8 fois au cours des années, pour finalement s'appeler alors secrétaire d'État chargé des droits des femmes, et aujourd'hui, voilà, donc ministère de la famille, de l'enfance, des droits des femmes, qui va être dirigé par Laurence Rossignol. Voilà, donc c'était une petite, c'est une question de nom, hein, et d'appellation, mais quand même ça
la novlangue.
Voilà, ça amène à certaines réflexions. Il y a eu plusieurs journalistes qui ont un peu essayé quand même de dénoncer le truc, hein, notamment des caricaturistes. J'ai bien aimé une caricature que j'ai vue sur internet. On voit Hollande qui dit à la nouvelle ministre votre bureau, en montrant la cuisine. Voilà, des petites choses
avec
comme ça.
Avec un balai, une serpillière.
Entre... Ouais, voilà. Ouais, une cuisine un peu classique. Quoi.
Juste pour ajouter par rapport à cette ministre, ouais, qui vient d'être nommée, en fait, du coup. Par rapport à la PMA, en fait, du coup, elle a dit que, en fait, c'était pas un sujet important, en gros, ouais, pour jusqu'aux prochaines élections. Donc, toute la communauté, les lesbiennes et ouais, même LGBT, on est... en rage.
Ça fait une parce semaine qu'on est là, fois,
on,
est déjà
on les oublie et la PMA, voilà quoi. Pour ouais, nous, c'est important. Et
je comprends.
Pour beaucoup de femmes.
C'est clair.
Beaucoup de lesbiennes.
Ouais. Bah, ça fait un peu penser aussi à l'hôpital mère-enfant où tu peux aller te faire avorter. C'est un peu les mêmes, ouais, les mêmes réassignations, on peut dire.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Incroyable.
Incroyable, mais vrai.
Le gouvernement l'a fait. Aussi, il y a une pétition à signer, j'en profite, pour sur Internet, contre il y a le gouvernement aussi, soi-disant de gauche, qui veulent démolir le droit du travail pour remplacer tout le droit du travail par quelques maximes patronales. Mm-hmm. C'est assez savoureux et c'est hyper scandaleux, quoi, parce que le droit du travail... On va pas faire un cours d'histoire du mouvement ouvrier, mais...
Bientôt, on fera une trilogie là-dessus.
Ouais, bientôt, on va faire une trilogie Radio Lilith. Mais c'est vrai que le droit du travail, ça a été chèrement acquis à coup de grève, à coup de blocage, à coup de manifestation. Et faut pas s'y laisser voler comme ça.
Et avant d'écouter notre musique dédicace, j'ai le droit de faire un appel à dons.
Ah oui.
J'ai le temps encore.
Un autre temps.
Alors, auditrices et auditeurs, il y a deux ans, Radio Canus a un appel à don pour son local. On a réussi à avoir notre local. Et là, c'est des copines féministes qui font un appel pour un local. L'achat d'un atelier en Ariège, c'est de menuiserie, métal, garage, auto. Et en non-mixité, en fait, parce qu'elles disent, oui, on sait, il y a plein de mecs super sympas qui pourraient nous apprendre à faire de la menuiserie, de la mécanique et tout ça, mais sauf qu'en fait, il y en a un qui arrive, il va inviter son copain sympa, son autre copain sympa, et puis en fait, il y aura que des mecs, et puis ce sera toujours la même situation où la meuf aura peur de prendre, la disqueuse, de se mettre sous la voiture et puis de changer ses freins ou de faire sa vidange d'huile, etc., etc. Et du coup, c'est un choix radical.
C'est une conne parce qu'elle n'y a pas forcément appris.
Voilà, et qu'elle y passera. Et puis qu'elle y passera 10 heures alors que l'autre y passera 1 heure. Mais bon, c'est comme ça. Parce que beaucoup de femmes, ça a changé des couches parce qu'elles l'ont fait quand elles avaient 14 ans pour avoir la thune. Et c'est comme ça. Et pour inverser ces assignations, elles ont décidé d'acheter un atelier de menuiserie, un vrai truc en fait. C'est une ancienne grande menuiserie, tout équipée, avec un espace pour un garage, des dépendances pour le stockage. C'est un truc de vraiment hyper sérieux pour avoir un espace sérieux d'apprentissage et de co-apprentissage dans la menuiserie, dans la soudure, dans la charpente, la mécanique. Voilà, c'est super. Et en gros, elles ont besoin de plein de thunes parce que ça coûte cher tout ça. Elles ont déjà 75 000 euros et il leur en faut 152 000. Alors voilà, elles appellent toutes les personnes qui sont sensibles à ce sujet et qui ont pas sensibles et qui ont de la thune en Suisse et qui veulent bien soutenir l'initiative de 5 femmes à s'autonomiser dans les travails dits masculins. Alors pour leur donner de la thune, ça s'appelle Jamais sans ma visseuse @gmail.com où il y a un numéro de téléphone, mais on va le mettre sur notre blog. Vous savez, on a un blog, Lilith, Martine et les autres, vous pouvez nous réécouter. Voilà.
Et on termine cette émission rapidement par la minute dédicace. Donc déjà, merci à nos deux invités, merci. Marie et Emeline, d'être venues.
Merci.
Et une petite première dédicace tout d'abord à la petite Lilith qui est née à Lyon il y a un mois. Freiheit und Liebe, kleine Lilith. Et un petit message aux parents, Anna et Thomas, on a une super idée de prénom si vous avez un jour une deuxième fille. Martine, c'est un prénom cool et tendance.
Et les autres, ce sera pas mal pour la troisième.
Et puis les autres. La troisième.
Et une deuxième dédicace pour ma sœur Marie, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et qui est là à Radio Canu en plus. Et bah, bon anniversaire Marie.
Et vous, on rappelle votre appel aussi pour les vieilles lesbiennes.
Oui, sur l'histoire du militantisme lesbien, du coup, voilà, des témoignages. Si vous voulez nous contacter, il y aura nos adresses mail sur le site
blog.
Ouais, Lilith, Martine et les autres. Et juste rappeler qu'on a une perm le 18 mars, donc bienvenue à tout le monde. Et
c'est au centre LGBT.
On vous attend nombreuses. Voilà.
Ok.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci. Ciao.
À bientôt. On n'est pas des...